Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Benoît Boutron.
Et le deuxième but lillois, il est signé Jonathan David sur un contre mené à 200 à l'heure et particulièrement bien exécuté par les Lillois avec un ballon décalé sur le côté droit pour Bourakilmaz par André Onana qui lui centre au cordeau, un ballon qui a passé devant tout le monde sauf devant Jonathan David qui au second poteau surgit pour mettre ce ballon au fond des filets. Les statistiques sont énormes pour Jonathan David, 11 buts en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions et maintenant 1 en Coupe de France. Personne n'arrête le buteur canadien.
Quelle saison pour lui, et ça fait 2-0 pour Lille contre Auxerre. On peut signaler également la deuxième passe décisive pour Bourakilmaz dans ce match. Il revient mine de rien le Turc Sébastien Puzel.
Ouais, bon, c'est un joueur d'expérience, hein. C'est vrai qu'il avait été tellement énorme la saison dernière que on était un petit peu déçu de ses prestations depuis le début de saison. Mais bon, ça reste un joueur de qualité qui aime marquer, mais qui aussi aime être décisif par des passes. Et là, il a plus qu'à pousser, Jonathan David. Mais moi, je voulais revenir sur Jonathan David. Quand on se rappelle de ses premiers mois, ouais, galère au niveau des statistiques et que Christophe Galtier lui a maintenu sa confiance.
Même s'il avait eu une bonne passe, hein, justement, quand Bourak avait été un peu dans le creux ou était un peu blessé, c'est lui qui avait porté Lille, justement, pour
ce match. Ouais, mais au début, en termes de statistiques, il y avait un gros investissement.
Oui, il avait eu trois premiers mois très délicats avant de se débloquer. Ouais,
on se rappelle, Timothée, quand même, que malgré le fait qu'il n'y ait pas de stats, souvent, il était dans les coups, il obtenait des pénalties, il était intéressant.
Galtier d'ailleurs soulignait son rôle dans le jeu et le fait qu'il pesait, qu'il créait des brèches pour ses coéquipiers. Il est beaucoup plus finisseur. Il est peut-être en train de nous faire une petite saison à la Osimhen et qui dit saison à la Osimhen dit chèque à la Osimhen peut-être aussi à la fin de la saison.
C'est quoi le chiffre?
Ah bah là il va être élevé le chiffre parce qu'ils avaient déjà investi une sacrée somme pour le
33, premier.
Donc c'est au moins le double.
Pour le moment c'est au moins le double d'ailleurs je te pose la question parce que j'ai pas revu le premier but part sur le direct. C'est vraiment une passe décisive de Bourak
il a un peu de réussite parce qu'il perd le ballon un peu comme ce qu'il avait fait en Ligue des Champions. Il est au milieu de trois joueurs, il veut essayer un peu de crocheter et finalement
c'est lui qui touche le ballon en dernier avant le petit Gomez.
Très bien.
T'avais pas confondu Bourak avec Renato?
Non, pas cette fois. Non, il est chambreur. Avoue que quand tu vois le numéro 7 dans le dos d'un Lillois, ça fait des années que c'est Jonathan Bamba. De loin, là où je suis, sur le coup, je dis Jonathan Bamba. Je m'en excuse auprès de l'excellent Angel Gomez qui a donc marqué son deuxième but sous les couleurs lilloises après le but qu'il avait marqué à Wolfsburg.
Et ça, c'est bien aussi. Hein, on parlait de.
Très bonne nouvelle pour Grovenek, absolument, de voir ce joueur qui était à Boa Vista la saison dernière être en réussite, lui qui a été formé à Manchester United.
Allez, n'oubliez pas nos petits copains, là, d'autres matchs en cours. On fait le point sur le temps et le score entre Cannes et Dijon, Clément Brossard.
Ouais, mais nous on se vexe pas comme Timothée Mémont, tout ça. On est là pour profiter, messieurs. 37 minutes 0-0. On va suivre quand même le corner dijonnais à venir parce que Frédéric Samaritano est là pour le frapper côté droit. C'est parti au point de pénalty sur une tête d'Ekwele Manga au second poteau prolongé. Attention à Philippe Autant qui a le ballon dans la surface de réparation. Il cherche en retrait. Ce sera une frappe lointaine. Non, finalement, on remet sur le côté droit. Le centre à venir de Samaritano repoussé par la défense canoise qui tient bon. 37 minutes 0-0 entre Cannes et Dijon.
Et lui non plus se vexe pas, Christophe Lécuyer. Que Villeroy en Laval, Christophe.
Absolument pas. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première période. Le Stade Lavallois qui mène un but à 0. Le but de Maggiotti tout à l'heure à la 16e, lui non plus. Faut pas s'y tromper. Il porte le numéro 5. Mais il joue pas défenseur central, encore moins libéraux. Il joue bien attaquant. Maggiotti, il a d'ailleurs déjà scoré à 3 reprises en championnat national cette saison. Et pour l'instant, son but sur la pelouse de Diochon, il est important parce qu'il permet aux Mayennais de mener un but à 0. Et franchement, c'est logique. Tant les Normands semblent emprunter ce soir face à leur public. C'est simple. Nazon, qui est quand même l'artificier en chef de cette équipe de QRM, il n'a pas eu la moindre frappe pour l'instant à se mettre sous la dent. C'est donc logiquement que le pensionnaire de National mène un but à 0. Il reste un petit peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première période.
Je vous rappelle qu'il y a un partout entre Tang, club de National 3, et Beauvais, club de National 2. Mais Beauvais va terminer à 10. Un joueur vient de se faire expulser, donc ce sera dur pour les joueurs de Beauvais. Et il reste 10 minutes à jouer dans la première période. Le point sur les scores à l'étranger, Leeds
Arsenal. Ça va peut-être faire 3 avec Zeki Celik. La frappe et le but de Zeki Celik qui est monté aux avant-postes. La passe est lumineuse. J'ai pas vu qui lui adresse ce bijou dans la profondeur. Il a absolument parfaitement senti la course. Et Bourak encore peut-être. Ballon est parfaitement glissé à Zeki Celik, le latéral droit turc qui part dans le dos de la défense. Et dans la finition, on peut dire que Théo Depersin est pas nécessairement très très inspiré. La passe, elle est signée André Onana, messieurs. Elle est absolument splendide. Le timing est parfait. Et la finition de Zeki Celik dans le petit filet
opposé. Théo de Persin est un petit peu loin à se mettre au sol.
Ah, elle est magnifique, hein, la passe de Onana. Il a bien entendu le déclenchement de la course de Celik et ça part dans le dos. Après le gardien, il doit largement mieux faire, hein. Le ballon il lui passe sous la main.
Alors Seb, nous on a le ralenti contrairement à Timothée. Ok, la passe est belle. Le problème qu'il y a, c'est le temps qu'il a pour la faire. C'est peut-être ça la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Je trouve qu'il est quand même seul pour pouvoir adresser ce ballon.
Il y a quand même un joueur sur lui. Il fait la bonne course en fait pour pouvoir se décaler et il attend le bon appel au bon moment de Celik. Oui, il a peut-être un peu plus de temps.
Il est pas attaqué quand même. Hein.
Il est pas attaqué, mais une bonne conduite de balle. D'ailleurs, j'ai trouvé. On suit pas tout le match, mais on voit quand même qu'Onana il a l'air de faire une bonne rencontre. Ah, Timothée, non? Onana dans le au milieu.
Ouais, ça a été un petit peu brouillon, très sincèrement, pendant les 20 premières minutes. Mais c'est vrai qu'il se met au niveau et c'est vrai que le prisme choisi toujours un petit peu plus négatif par Benoît en disant que finalement il a du temps, non pas parce qu'il est bien placé mais parce que c'est une équipe de Ligue 2 en face. T'as peut-être raison tout simplement. Tout à l'heure je saluais la prestation de Renato Sanchez, mais c'est vrai que les deux milieux de terrain, quand ils se retournent, ils ont clairement du temps, beaucoup de temps, peut-être trop de temps pour ajuster de bons ballons dans la profondeur.
Ouais, et ça fait 3-0 déjà pour Lille, champion de France, qui joue la coupe à fond face à la JOCR, qui est plutôt concentré sur le championnat. OCR qui est 3e de Ligue 2, on le rappelle. Le point à l'étranger, ça va mal pour Lille contre Arsenal notamment, Aurélien Tiersin.
Et 2-0 pour Arsenal, 40 minutes de jeu. On sent bien que l'équipe de Marcelo Bielsa essaie, mais ça marche pas du tout. Ils n'ont jamais le temps de respirer. Le ballon n'arrive jamais aux attaquants. Il y a eu un changement déjà après à peine une demi-heure de jeu. C'est Harrison, un ailier, l'ailier gauche, qui a laissé sa place à Crescencio Somerville, un néerlandais. Bon, ça n'a rien changé, 40 minutes de jeu, 2-0, c'est même pas un grand Arsenal, mais ça suffit à dominer Leeds. Et puis au Barça, c'est plutôt pas mal aussi, bon, contre une petite équipe de Liga, Elche 16e simplement, mais ça marche plutôt pas mal, 2-0, les buts de Gavi et de Ferran, deux jolis buts d'ailleurs après 40 minutes de jeu.
On va retourner à Cannes du coup, Cannes-Dijon, Clément Brossard.
Ouais, là, il y aura certainement un carton jaune sorti de la poche d'Arnaud Berthe contre Jonathan Panzo, le défenseur dijonnais, pris au duel en retard, surtout sur l'attaquant Stanislas Kielte, toujours lui qui fait décidément une grosse première période. On a vu de nouvelles occasions canoises parce qu'il ne s'arrête pas. Les pensionnaires de National 3 sur les côtés, ça déborde à chaque fois. Djabour a tenté sa chance tout à l'heure, ça a été repoussé par Radchopi, et puis à cette qualité de pelouse, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une passe de Zargo Touré, le défenseur dijonnais, vers Anthony Radchopi avec un petit rebond qui a mis en panique la défense dijonnaise. Et Quelemanga était tranquillement en train de conduire son ballon avant que pareil, un petit rebond vienne le mettre tout seul dans la panique. Donc ça joue forcément dans ce style de rencontre. Coup franc à venir pour les Canois, frappé dans la surface de réparation, repoussé par une tête de Zargo Touré justement. Ça peut partir en contre pour Dijon désormais. Michael Le Bihan qui fait un appel, il n'a pas été servi et il ne le sera toujours pas décidément. Match compliqué, début de match compliqué pour Michael Le Bihan qui ne touche pas un ballon et ça part très très vite de l'autre côté pour le club de National 3 aux abords de la surface de réparation. Est-ce qu'ils vont obtenir le corner? Ouais, ils vont tenter d'obtenir le corner. À la bagarre en tout cas sur le côté gauche, Julien André, est-ce qu'il va l'obtenir? Non, ce sera repoussé par la défense bourguignotte. Ils mettent le feu dans cette défense du DFCO, ces joueurs canois, mais pour le moment toujours pas de but. 42e, 0-0 entre Cannes et Dijon.
Et encore un but pour Arsenal, Aurélien Tiersin.
En train de couler tranquillement l'équipe de Marcelo Bielsa, des contres favorables, la défense est catastrophique. Ouais. C'est Bukayo Saka qui part de son aile droite. Il se retrouve à gauche, il a 15 contre favorables, personne n'arrive à dégager le ballon et il donne une petite frappe au premier poteau. Ilan Meslier est battu, bon, le ballon est légèrement contré, ça prend, il y aura quand même l'appel à l'assistance vidéo, mais ça ferait 3-0 ouais. Pour Arsenal après 42 minutes de jeu. Le Barça lui mène toujours 2-0 et il y a Carles Puyol qui a tweeté sur le deuxième but de Gavi qui est vraiment merveilleux. Il en fait appel à la mère de Dieu parce que là c'est vraiment un but magnifique de Gavi.
Ouais, il y a 2-0 pour le Barça contre Elche effectivement au New Camp. Tu me disais toi Seb, la défense de Leeds, on dirait celle de l'AS Saint-Etienne.
Non, d'abord je ne vais pas comparer à Saint-Etienne, mais en tout cas.
Ah, tu m'as pas dit ça. Non, ah, tu n'assumes pas devant Timé Témémon, c'est
non,
peut-être ça.
Non, pas du tout. Puis en plus,
d'accord.
Et puis en plus, je suis pas forcément d'accord avec ça. Simplement, Leeds, là, tu sens qu'ils coulent complètement. Ils étaient en supériorité numérique à chaque fois, c'est les Gunners qui ont eu les comptes favorables. Ça montre une équipe qui est vraiment qui est en manque de confiance, un entraîneur qui est en manque d'idées. Voilà, une équipe qui a ça sent la fin.
On rappelle qu'il y a eu beaucoup de reports de matchs en Angleterre. C'est le premier match qu'ils disputent de cette journée, en tout cas aujourd'hui, parce que tous les autres matchs ont été reportés à cause du Covid. Un coup franc canois contre Dijon, Clément, vas-y.
Qui n'a rien donné, c'était pour Christophe Desmartin, le milieu de terrain. Il a tenté de la jouer en retrait, mais finalement il y a une bonne intervention de la part de la défense dijonnaise. Toujours 0-0 à deux petites minutes désormais de la pause.
Tiens, retourne du coup à Rouen pour Quevilly-Rouen, Laval, mon cher Christophe Lécuyer.
Pour la dernière minute du temps réglementaire de cette première période, toujours ce score d'un but à zéro pour le stade Lavallois. On a enfin assisté à la première frappe cadrée de QRM dans cette rencontre avec Yann Boykan qui a pris ses responsabilités là à 20 mètres sans inquiéter au bois. Mais la tentative avait au moins le mérite d'être cadrée, mais c'est quand même une copie bien pâle que fournissent les joueurs de Bruno Hirles. Alors certes, il y a Sangaré et Sidibé qui sont suspendus, qui sont des pièces importantes, qui ne sont pas là ce soir, mais ça n'explique probablement pas tout. Ont-ils déjà la tête au derby face au stade Malherbe de Caen mardi? Peut-être est-ce là un élément de réponse. En tout cas, pour l'instant, c'est assez logiquement que les Mayennais bousculent la hiérarchie de Stade Avalois qui mène toujours un but à zéro sur la pelouse de Diochon. Ici, il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire.
Tiens, je remercie Bernard sur le direct studio qui m'indique qu'on dit Taon et non pas temps. Voilà, y a un temps en Normandie, c'est ça, à côté de chez toi, Christophe Lécuyer. Mais celui-là, c'est
exactement,
le
juste à côté de Caen.
Moi, je savais.
Oui, c'est ouais, ça, oui, évidemment. Ça, c'est parce que c'est exactement la même orthographe, mais finalement, on dit Taon. Donc, pour le club des Vosges qui mène désormais 2-1 contre Beauvais.
Oui, comme Raon l'étape. Taon.
Ouais, mais regarde, à côté de chez Christophe, on dit Taon.
Ouais, mais à côté de chez Christophe.
Ah, d'accord. Voilà. Belle explication.
Alors, en même temps, nous, on est normands, quoi. En Normandie, on dit Taon.
Ouais, vu comme ça, j'avais pas pensé. 19h15 sur RMC, retour à Lille. Lille Auxerre, c'est plié a priori, Timothée Mémon. Hein.
Ça en a tout l'air, effectivement. Récital de la part du LOSC ou naufrage pour la JA. Un petit peu des deux, mon capitaine, ouais. Et ça fait 3-0 en faveur des Lillois. On est dans la petite minute de temps additionnel. On a cité tout à l'heure la première frappe cadrée des Auxerrois par Paul Joly. Elle n'a absolument pas inquiété Ivo Gribic. Le ballon est dans la surface lilloise, mais sera bien sorti. On reste donc à 3-0 après 45 minutes de jeu.
On dit bien Dijon contre Cannes, Clément Brossard.
A priori, oui, il me semble.
C'est pas Dijon, c'est pas Valadolid.
On est là aussi dans le temps additionnel, dans cette petite minute également, au stade Pierre de Coubertin de Cannes. Il y a eu un nouveau carton jaune sorti de la part de l'arbitre de la rencontre contre JCP. C'est déjà le deuxième contre les Dijonais qui sont dépassés. C'est l'explication, tout simplement, dans cette rencontre, vrai, dans cette première période. Par une équipe de Cannes qui est franchement costaude et impressionnante, quoi, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une équipe de National 3. Ils sont troisième de leur championnat, de leur groupe de National 3, mais ils font la différence face à ces Dijonais. Et on est dans une vraie ambiance Coupe de France où à chaque fois qu'il y a un débordement ou un ballon qui s'approche de la surface de réparation, il y a les supporters qui viennent presque jusqu'aux grilles pour essayer d'anticiper éventuellement un heureux événement, alors que c'est la pause à l'instant sifflée par Arnaud Baert. Décidément très impressionnant, ces Canois restent juste le petit but pour essayer de faire l'exploit. 0-0 à la pause entre un Dijon toujours malade et un Cannes ambitieux.
Ouais, en tout cas pour l'instant c'est Cannes qui fait la différence. 0-0 à la pause, oui.
Et 3-0 en faveur de Lille à la mi-temps, Timothée, parce qu'elle vient d'être sifflée.
Très bien, merci Timothée, merci Clément. À tout à l'heure pour les secondes périodes. On va retourner à Rouen pour Quevilly-Rouen, Laval, la fin de première période. Christophe Lécuyer.
Ouais, la fin est proche maintenant. Ce sont encore les Lavallois là, qui ont le ballon, justement, avec un ballon sur le côté droit. Peut-être, ben, c'est la mi-temps. On n'ira pas au-delà. Il n'y aura pas de contre-attaque lavalloise puisque la mi-temps est sifflée à l'instant ici au stade Robert Diochon. Et c'est bien le stade Lavallois, pensionnaire de National, qui mène un but à zéro. Assez logiquement d'ailleurs, l'unique but de la première période marqué par Maggiotti tout à l'heure à la 16e.
Bon, merci Christophe. À tout à l'heure pour la seconde période. Et Taon qui mène donc 2-1 contre Beauvais. Beauvais qui est réduit à 10. Est-ce que c'est la mi-temps à l'étranger, mon petit Aurélien Tiercin, en Espagne, en Angleterre?
C'est la mi-temps au Barça, au Camp Nou, 2-0 pour le FC Barcelone de Xavi, avec les buts de Ferran à la 16e minute, une belle tête sur un corner de la gauche, et puis Gavi, un but fantastique à la 19e. Ça roule pas mal pour le Barça. Et puis il y a un temps additionnel de 3 minutes à Leeds entre les Gunners et Leeds United, 3-0 pour Arsenal donc juste avant la mi-temps. C'était pas très sympa pour les hommes de Marcelo Bielsa de rajouter 3 minutes, vraiment une mi-temps catastrophique de leur côté, aucune occasion de but. Ils ont pris vague sur vague défensivement, ils n'ont pas réussi à relancer un ballon correctement
sur les deux derniers matchs déjà.
Ouais, ils ont beaucoup d'absents en plus, des joueurs importants, même si
Aubameyang par exemple.
Non, je parlais du côté de Leeds. Bon, Aubameyang, quand on voit ce que fait Lacazette depuis quelques matchs, et surtout Martinelli, bon, pour l'instant, ça va. Je dis pas qu'ils ont pas besoin de lui.
Aubameyang a perdu le capitaine, d'ailleurs, à Arsenal.
c'est la mi-temps. Du coup, on Marcelo Bielsa qui va regarder s'il a pas une petite tache ou quelque chose sur son veston. Là, il s'essuie, il a que ça à faire. De toute façon, son équipe est à la ramasse. 3-0 pour Arsenal. Doublé de Martinelli et un but de Bukayo Saka.
Merci Aurélien. À tout à l'heure pour les secondes périodes. Donc le Barça mène 2-0 contre Elche et 3-0 pour Arsenal. À Leeds, 19h18, je vous rappelle les scores en cours. En Coupe de France, 0-0 entre Cannes et Dijon. 1-0 pour Laval à Rouen face à Quevilly-Rouen. 2-1 pour Taon contre Beauvais et donc 3-0 pour Lille contre Auxerre. Et tout de suite, on parie.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Bon, Yoel Guy va tout de même pas oser nous faire parier sur Lille-Auxerre.
Eh bien si, messieurs.
Enfin, on va parier...
La cote d'Auxerre, ça m'intéresse.
Alors, la cote d'Auxerre, 500. Elle est belle. Elle est à 500, exactement.
Ah ouais. Vas-y,
le match nul est à 140. 140, donc le match nul. Et il n'y a pas de cote pour Lille. Comme ça, au moins, ça va... Ça va assez vite. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est de miser sur un score exact. Je vois Lille tranquillement, jouer tranquillement, tout simplement faire tourner, ne pas s'épuiser. Lille est qualifiée. Je vous propose donc un 4-0. Ça arrive souvent quand il y a 3-0 à la mi-temps. C'est coté à 3,65.
Seb.
Yilmaz, le prochain buteur, c'est quoi?
Ah, Yilmaz, prochain buteur, c'est 3,90. Très belle cote.
Voilà, je mets ça. Allez.
Pourquoi pas? But de Yilmaz et toi tu joues le 4-0. J'ai envie de te suivre, Johan Guillet, tiens là-dessus.
Très bien.
Merci Johan. Les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
19h20 sur RMC. Je vous signale juste la sortie d'un nouveau podcast sur RMC. Ça s'appelle Scouting. C'est consacré aux talents de demain avec Mathieu Bodmer et Loïc Tanzi. C'est en partenariat avec Football Manager. Un hors-série exceptionnel cette semaine qui est consacré à la formation du Paris Saint-Germain. Une heure d'entretien avec Johan Cabaye, coordinateur sportif du centre de formation du PSG. Son rôle, la philosophie de jeu à Paris qu'il veut mettre en place. Comment faire en sorte d'éviter la fuite des talents. Vous pourrez trouver tout ça sur les applis d'RMC, RMC, RMC Sport ou encore sur toutes les plateformes de téléchargement. Sébastien Piocel reste avec moi dans un instant en file en Espagne pour vous présenter une finale qui aura lieu demain, celle du championnat du monde de handball féminin entre la France et la Norvège. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, Coupe de France,
Benoît Boutron.
19h22 sur RMC, c'est l'Intégral Foot spécial Coupe de France, 32e de finale. On est là avec Sébastien Piocel. Les scores des matchs qui ont démarré à 18h30, c'est la pause sur les 4 pelouses. Lille, champion de France en titre, mène 3-0 contre la JOCR. 0-0 entre Cannes, club de National 3, et Dijon, club de Ligue 2. Laval, club de National, mène 1-0 à Rouen contre Quevilly-Rouen, club de Ligue 2. Et puis Taon, club de National 3, mène 2-1 contre Beauvais, club de National 2. Les Beauvaisiens qui vont terminer à 10 puisqu'ils ont écopé d'un carton rouge. À 21h, il y aura un derby entre club de Ligue 1, entre Rennes et Lorient, à suivre sur RMC. Évidemment, 19h23, Seb, je t'emmène en Espagne, à Granollers, retrouver Nicolas Paolo Orsi qui nous rejoint. Salut Nico.
Hola chicos, j'essaie de faire une Fred Hermel. C'est pas pareil quand même.
Alors c'est pas pareil, mais...
Ça passe quand même.
T'es un peu notre talisman, celui qui porte chance aux équipes de France. On avait choisi de t'envoyer au Jeux de Tokyo. T'as fait un carton, tu couvrais le handball. T'as suivi 2 titres olympiques. On s'est dit, on retente le coup avec ce championnat du monde de handball féminin. Et rebelote, finale pour l'équipe de France demain face à la Norvège. Ce sera l'événement de la journée sur RMC à 17h30. Et on peut dire, Nico, que sur le papier, c'est la finale rêvée, en tout cas pour tous les amateurs de handball.
J'aime bien quand tu me flattes comme ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir un samedi soir.
Oh, le coup de c'est sûr. Arrivé, t'inquiète pas.
Oui, j'en doute pas un seul instant. Non, mais c'est sûr que ce France-Norvège, bah, pour nos auditeurs qui sont dingues de foot, c'est un France-Brésil en finale de la Coupe du Monde de foot. C'est ça, c'est les deux meilleures équipes du monde avec la Russie. Ce sont les équipes qui dominent le hand féminin mondial depuis maintenant plusieurs années. C'est une affiche qu'on n'avait pas eue au Jeux de Tokyo parce que les Norvégiennes s'étaient faites éliminer en demi-finale des Jeux contre la Russie, qu'on avait retrouvé en finale. Donc voilà, il y avait ce petit goût d'inachevé. Mais France-Norvège, c'est la finale d'il y a un an à l'Euro 2020 où on se fait battre au Danemark contre elle de deux petits buts dans un final complètement étouffant. Donc ça va être un match très 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 dur sur le terrain. Il va y avoir beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité. Surtout que les Françaises sortent d'un match monstrueux, d'un exploit retentissant contre le Danemark. Alors je vous rappelle le scénario, mais hier en demi-finale, on est quand même mené de 4 buts à la 40e minute. à 20 minutes de la fin. Et puis, elles arrivent à aller chercher cette victoire. Elles passent pour la première fois devant dans la partie à 3 minutes 30 du coup de sifflet final. C'est vraiment un véritable exploit. Et elles étaient quand même un peu encore dans l'émotion tout à l'heure. Écoutez Pauleta Foppa, la jeune pivot de l'équipe de France. Elle a même pas 21 ans. C'est la meilleure buteuse des Bleus de la compétition. Et franchement, elles avaient du mal à réaliser après cette qualification en finale quand même.
Ben, on réalisait pas en fait, on dit putain on a gagné. On réalisait vraiment pas d'avoir gagné parce que ben, on a été mené pendant 56 minutes je crois. Donc ouais c'était très compliqué. Franchement plus le match passait et pas on doutait mais un peu quand même parce que c'était très 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 compliqué. En fait on réalisait par rapport à des vidéos qu'on voyait sur les réseaux où ou nos proches en nous disant vous nous avez fait paniquer.
Voilà. Donc il a fallu évacuer cette qualification pour la finale. Aujourd'hui, elles nous ont dit que ça y est, elles étaient vraiment passées à autre chose parce que ces filles-là ne sont pas rassasiées, qu'elles ont faim. Mmh. Alors bien évidemment, on a vu Olivier Crumbles, le sélectionneur, et on lui a parlé de cette finale face à la Norvège parce que rendez-vous compte, Olivier Crumbles, donc il va décrocher sa 13e médaille internationale. Ah bah c'est énorme. C'est ça, plus que Claude Onesta, tu vois.
Il y a plus de place du coup dans l'armoire. Au-dessus de la cheminée.
Il y a plus trop de place. Ah bah, je pense qu'il a acheté une deuxième commode. Oui, je pense qu'il a acheté une deuxième commode pour les ranger. Et son premier France-Norvège en finale, c'était en 1999. C'était la première grande finale pour l'équipe de France en compétition. Donc on lui a demandé si.
Et Seb était au centre de formation du FC Nantes. Tu te rends compte?
C'est pas faux. Avant de signer au Sporting Club de Bastia.
Eh oui, évidemment.
Bien évidemment.
Il connaît ses classiques.
Écoutez Olivier Crumbles sur ses finales France-Norvège.
Ouais, d'autant plus qu'on a fait une partie de la préparation des Jeux Olympiques ensemble, qu'on s'apprécie beaucoup, qu'on travaille ensemble. C'est une fédération amie. Ouais, un match très excitant, de très haut niveau, avec peut-être une opposition de style. Mais on sait que c'est une équipe qui est très difficile à battre et qu'on la bat que lorsque on produit un handball de qualité exceptionnelle.
Une finale de rêve donc qui attend l'équipe de France féminine de handball. Nico, juste rappeler avec toi la portée historique de l'exploit qu'attend ces Françaises évidemment demain parce qu'elles ont été sacrées championnes olympiques à Tokyo en août dernier. Chez les filles, c'est même jamais arrivé qu'il y ait l'enchaînement d'un titre olympique et d'un titre mondial parce que deux nations l'ont fait gagner deux titres d'affilée en cinq mois d'écart, mais c'était à l'époque JO et Euro parce qu'il y a eu un an de décalage avec effectivement le Covid et pour ces Jeux de Tokyo. Ce serait historique dans l'histoire du handball féminin de voir une nation remporter la même année les Jeux olympiques et le mondial.
Oui, ça a été fait par le Danemark, par l'URSS. Donc le Danemark, c'était en 96, l'URSS dans les années 80. Donc imaginez. Et puis au-delà de ce doublé, qui serait bien sûr exceptionnel, parce que à 4 mois d'intervalle, c'est la 3e compétition internationale en un an. Il y a des enchaînements qui sont terribles dans le handball international. Voilà, vous n'avez pas le temps de souffler. Les filles ont eu à peine 9-10 jours de vacances avant de reprendre en club après leur titre olympique. C'est plus sur la longévité quand on analyse les résultats de cette équipe de France qu'on se rend compte de la portée de leur exploit. 7e médaille lors des 8 dernières compétitions. C'est-à-dire que depuis Rio 2016, à chaque fois quasiment, elles ont décroché une médaille. Le seul loupé, c'était en 2019 au championnat du monde à Kumamoto. Et c'est devenu, cette équipe, une machine à gagner. Écoute Pauleta Foppa, la jeune pivot, et vous allez voir que la France a encore faim.
Je pense qu'on est vraiment pas rassasiés. La preuve, hier, je pense qu'on s'effondre par terre parce que le scénario était juste ouf. Mais par exemple, aujourd'hui, plus personne n'en parle, entre guillemets, parce qu'on sait que on n'a pas terminé. Je pense que tout le monde veut décrocher l'or et on est vraiment focalisé sur la dernière marche. Donc, on sera rassasié, entre guillemets, quand on aura remporté l'or.
Pauleta Foppa, donc joueuse de l'équipe de France de handball. La finale demain à 17h30 face à la Norvège. Avant match dès 17h dans l'intégral sport autour de Simon Dutin. On dit merci à celui qui est rassasié, Nicolas Paul-Orsi, et pas seulement par
pas
les
encore.
Médailles.
On mange tard en Espagne quand même.
Toi, t'as dû prendre 5 kilos en une semaine. On te connaît. T'as dû manger comme un petit goré. Tu dois être dans un état lamentable.
Bon, en tout cas, on mange gras ici. On mange gras ici.
Voilà, exactement.
Bonne soirée, les gars.
Repose-toi bien. On t'attend en pleine forme pour la finale de demain, donc entre la France et la Norvège, à 17h30. 19h30 sur RMC, juste une info à vous donner. Elle concerne justement les conséquences de l'arrêt du match entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais en Coupe de France hier soir. Enquête ouverte par le parquet de Paris. Ça a été communiqué il y a quelques minutes. On rappelle qu'effectivement, il y a eu des incidents hier, donc à Charletti, entre le Paris FC et l'OL ont une enquête pour violence volontaire vient d'être ouverte au sein d'une enceinte sportive ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours. Les investigations ont été confiées au groupe Stade de la direction de la sécurité. Donc c'est Paris qui prend en charge ce dossier. Il y aura certainement des conséquences, on suivra ça. Et d'ailleurs on peut également vous indiquer que de sources concordantes, il n'y a pas eu d'interpellation hier soir pouvant pour l'instant être relié directement à ces incidents. Les CRS pourront seulement raccompagner les supporters, notamment les Lyonnais, les ultras qui étaient mis en cause dans ces incidents. On vous tient informé, vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. On revient dans un instant avec Sébastien Piocel pour les secondes périodes en Coupe de France, seconde période de Lille-Auxerre, Quevilly-Rouen-Laval, Cannes-Dijon ou encore Tarron face à Beauvais. À tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Benoît Boutron
avec Sébastien Piocel jusqu'à 21h ce soir sur RMC, la suite des 32e de finale de la Coupe de France. Dans un instant, je vais vous rappeler tous les qualifiés pour les 16e de finale qui auront lieu le premier week-end de janvier. Mais ça repart sur les différentes pelouses. C'est reparti notamment au stade Pierre Mauroy entre Lille et la JOCR, Timothée Mémon.
Absolument, c'est reparti et le suspense a probablement été tué dans l'œuf durant la première période puisque c'est Lille qui mène 3-0 avec notamment des but d'Angel Gomez, de Jonathan David qui a marqué son 15e but de la saison, toute compétition confondue. Et bien les Lillois sont donc devant, ils mènent 3-0 et pas de changement à la mi-temps.
Merci Timothée, on revient te voir pour la fin de ce match, le coup de sifflet final à tout à l'heure. Direction Cannes, pour Cannes-Dijon, Clément Brossard.
Oui, ça va reprendre dans quelques instants. J'étais en train de surveiller un petit peu le quatrième arbitre puisqu'il y a eu deux changements dans les rangs dijonnais avec la rentrée de Cheikh Traoré à la place d'Ahmad Nguyomsa et Jesse P qui est sorti, me semble-t-il. On va suivre quand même cette première occasion avec pourquoi pas les Canois là, qui tentent de déborder sur le côté droit. Ça part très très fort avec Djebour, numéro 10 Canois. Ça va revenir sur le milieu de terrain. Mehdi Kadi, finalement la récupération bourguignonne pour se projeter rapidement. Les premiers ballons notamment de Cheikh Traoré sur le côté droit va tenter d'alerter Mickaël Le Bihan. Il y a un peu d'espace devant lui. Il va pouvoir servir le milieu de terrain. Il y a contact de la surface de réparation. Que dit l'arbitre? Pénalty.
La réduction de l'écart avec le but de la part de la GIA. Cette frappe magnifique et tout en spontanéité, elle est signée Rémi Dugimont qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 3-1 donc entre le LOSC et la GIA.
On y revient dans un instant. Il suffisait de te chauffer pour qu'il y ait un but, effectivement, Timothée. Mais on retourne à Cannes. 4-Dijon. Pénalty, Clément Brossard.
Ouais, fautif sur ce coup-là, Maxime Aguade, le défenseur central canois, qui va même prendre un carton jaune pour avoir heurté dans la surface de réparation le milieu Matteo Alinvi. C'est évident, il semblait y avoir faute. En tout cas, je ne sais pas si vous reverrez les images, messieurs, dans quelques instants, mais en tout cas, il y a un contact, ça c'est une certitude. Mickaël Le Bihan qui avait la place devant lui pour servir son milieu Matteo Alinvi. Il est un peu en retard, Maxime Aguade, et donc il vient jouer au physique, mais voilà, avec quelques mètres de retard, eh bien, il était passé le milieu Bourguignon. Ça va offrir certainement, alors que non, alors il avait annoncé un pénalty, finalement il sera vide, c'est un coup franc, ce sera un coup franc. Alors, j'ai l'impression que c'était clairement la surface de réparation, mais il estime que la faute était juste avant de la surface de réparation. Le carton jaune a été sorti, en tout cas coup franc à venir, mais ça c'est aux abords vraiment de la surface canoise, et ce sera pour Mickaël Le Bihan. Il est seul autour du ballon, il y a un large mur qui s'est constitué dans les rangs azuréens, 5 joueurs donc pour barrer la route à l'ex-attaquant Auxerrois, Mickaël Le Bihan, qui n'a touché que très peu de ballons dans cette première période. Est-ce que c'est parti? Il y a un moment de flottement là, clairement, au stade Pierre de Coubertin. Ça va partir pour l'attaquant bourguignon. C'est frappé fort au fond des filets. Il lui en faut pas 50 non plus à l'ancien attaquant Auxerrois, qui met ses doigts sur les tempes puisqu'il a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Il ne marquait pas beaucoup cette saison en Ligue 2, et d'un coup franc magnifique en force à terre, il vient trouver le petit filet de Florian Verplanck. C'est terrible vraiment pour ces Canois parce qu'il méritait peut-être mieux. Après, il reste beaucoup de temps, mais après 2 minutes 20 seulement en deuxième période, et eh bien Dijon, le 16e de Ligue 2, vient punir, on peut le dire clairement, le 3e de National 3, la Cannes.
Alors, je vais encore passer pour le rabat-joie de la bande, mais là je suis désolé, prendre un coup franc placé là côté ouvert, le gardien n'a pas le droit, Sébastien.
Ouais, puis en force, c'est pas ce que le terme que j'aurais utilisé, c'est non, plutôt placé avec un peu de réussite, mais le gardien, je comprends pas le placement de son mur.
Ouais.
Et en plus de ça, il peut la mettre que là, donc je sais pas comment.
Moi, je pensais qu'il l'avait enroulé de l'autre côté, mais ouais, il l'a mis côté ouvert.
Il y a un petit rebond ou pas?
Il y a un petit rebond. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a un de ses défenseurs qui
met la jambe.
Ouais, qui met la jambe. Peut-être que ça peut le tromper.
Bon. C'est dur pour Cannes, en tout cas, qui a fait une super première période et qui se retrouve mené par le club de Ligue 2 Dijon, un but à zéro dès le début de la seconde période. Retour à Robert Diochon, Quevilly, Rouen, Laval, Christophe Lécuyer, c'est reparti.
Depuis un petit peu plus de 3 minutes exactement, toujours ce score de
1-0. Attention avec Jonathan David qui va se présenter tout seul. Jonathan David peut-être pour le quatrième but, il va céder cette balle à Bourak Yılmaz qui rate le cadre. Oh, je croyais qu'elle était au fond. Il va rater le cadre pour Bourak Yılmaz avec le retour défensif. Il faut le dire également impeccable de Paul Joly, me semble-t-il. En tout cas, elle a été altruiste. Jonathan David, il aurait pu finir et mettre le quatrième but lillois. On en reste là. C'était bien joué entre les deux attaquants, mal fini malheureusement.
Bon, vous allez laisser parler Christophe Lécuyer un petit peu pour ce Quevilly-Rouen-Laval, Christophe.
En même temps, j'ai pas d'occasion à vous commenter, sinon vous dire que c'est reparti depuis 4 minutes en seconde période, que Laval mène toujours un but à zéro. Et franchement, il a dû les secouer, ces joueurs, Bruno Irles, à la pause, j'imagine même pas. Il a d'ailleurs fait deux changements avec les sorties de Jebele Bassa, remplacé par Zabou et Joseph Zon, pour essayer d'apporter forcément un petit peu de sang frais aux avant-postes. Mais la deuxième période a débuté comme la première, avec des Lavallois omniprésents au cœur du jeu, notamment. Ils se battent sur tous les ballons, les joueurs d'Olivier Frappoli. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas un hold-up, loin de là, qu'ils sont en train de réaliser sur la pelouse de Diochon, eux qui mènent toujours un but à zéro, le but de Maggiotti, on le rappelle, au quart d'heure de jeu.
Ok, je précise que Taon, club de National 3, mène 2-1 contre Beauvais, club de National 2, Beauvais qui est réduit à 10 pour l'instant. Ouais, c'est un peu dur, je le disais, Seb, pour cette équipe cannoise qui a fait le boulot en première période, qui a inquiété cette équipe dijonnaise, qui aurait dû ouvrir le score avec pas mal d'occasions franches et qui se retrouve menée dès le début de la seconde.
Ah, c'est ça la problématique, c'est quand tu as des temps forts et tu n'arrives pas à concrétiser. Souvent derrière tu es puni. Puis bon là c'est sur un coup franc, on parlait du positionnement du mur, mais c'est sur certainement un but évitable et beaucoup de dépenses d'énergie aussi. Il faut voir comment ils vont réagir à cette ouverture du score, parce que derrière ils vont attaquer encore plus. Et bon, c'est quand même l'équipe en face de Dijon qui a plus d'expérience, et attention à pas laisser trop d'espace dans le dos.
Ils ont profité simplement de la première faille en fait qu'il y avait dans la défense canoise, les Bourguignons. Ils ont été efficaces sur ce coup-là. 1-0 ouais. Pour Dijon sur la pelouse de Cannes.
Terrible ce qui arrive à Leeds, qui est mené 3-0 par Arsenal, et le meilleur joueur de Leeds semble s'être blessé gravement, Aurélien Tiersin.
Alors on attend de savoir la blessure de Rafinha, l'ancien Rennais, qui a pris une énorme semelle de Granit Xhaka, le milieu suisse qui en plus se permettait de faire un petit peu le mariole auprès de Monsieur Mariner, l'arbitre du match. Et il n'a même pas pris de carton jaune. On s'attendait peut-être à avoir au moins un carton, voire rouge, mais il n'a rien pris du tout. Donc Leeds pour l'instant à 10 contre 11. Leeds toujours mené 3-0 par Arsenal, et la défense de Marcelo Bielsa reste catastrophique dans les 5 premières minutes de cette deuxième période. À Barcelone, toujours 2-0 pour les Blaugrana contre Elche, 53 minutes dans un match qui a baissé d'intensité depuis les deux buts du Barça dans les 20 premières minutes. Mais bref, la jeunesse catalane va plutôt pas mal, 2-0 donc pour le Barça.
On vient de voir un carton sorti à Cannes, entre Cannes et Dijon, Clément Brossard.
Oui, tout à fait, une nouvelle fois aux abords de la surface de réparation cannoise, un coup franc dangereux à venir, c'est frappé par Frédéric Samaritano au second poteau, chercher la tête d'Alex Dobré qui est rentré à la pause à la place de Philippe Poteau, c'est Samaritano pardon qui a tiré le coup franc, de joueur de petite taille, et c'est passé au-dessus de la cage finalement de Florian Verplanck. Le carton a été sorti contre Julien André, me semble-t-il, le latéral gauche qui a été pris de vitesse sur ce coup-là. Mais en tout cas, on sent pas cette équipe de Cannes résignée pour autant. On a vu tout à l'heure le geste du jeune attaquant Stanis Kielt qui a appelé les joueurs à se calmer, à se révolter. Mais on joue toujours au ballon chez le pensionnaire de National 3. On tentait sans se précipiter à venir piquer cette défense bourguignonne. Ils ont su le faire à maintes et maintes reprises en première période. Après 52 minutes de jeu, ils se retrouvent menés 1-0 contre le cours de jeu. Il y aura certainement d'autres occasions à venir pour le pensionnaire de National 3. 1-0 pour les Bourguignons.
Et quelle occasion pour Laval sur la pelouse de Quevilly-Rouen, Christophe Lécuyer.
Ah ouais, on était vraiment tout près du deuxième but Laval. Franchement, ils prennent des vents de tous les côtés, les défenseurs de QRM. Quand je vous disais que c'était pas volé, ce score d'un but à zéro pour le Stade Lavallois, encore une énorme occasion avec Brun qui est intenable, qui a centré pour Durban, c'est passé juste au-dessus de la barre transversale, et ça a surtout provoqué le courroux incroyable de Romain Lejeune qui garde les buts de QRM ce soir, parce qu'on a fait tourner du côté de Bruno Irles. L'habituel portier Nicolas Lemaitre est sur le banc, il était fou furieux, Lejeune a envers ses défenseurs qui avaient laissé effectivement le joueur Lavallois adresser ce centre. 54 minutes de jeu ici à Diochon, et toujours ce score d'un but à zéro, on ne peut plus mériter pour le Stade Lavallois.
Où est-ce que ça s'anime ? À Cannes ? Clément ?
Ouais, ça s'anime un petit peu parce qu'il y a un pressing là mené par Kielt, l'attaquant central, et avec la qualité du terrain, ils sont en panique, les défenseurs bourguignons. Ce ballon qui rebondit juste devant le gardien Anthony Raichopi, ils s'en sortent comme ils peuvent un petit peu, mais le pressing est gagnant finalement pour les Canois qui récupèrent ce ballon assez haut au niveau de la ligne médiane pour se projeter ensuite. Kielt qui va avoir de la solution devant lui. Il y a l'appel de Djebbour, l'appel également sur le côté droit de Paul Grandemange. La passe est manquée, ça va offrir une opportunité de contre pour ces Dijonais qui vont très vite notamment. Ils ont passé une, deux lignes désormais. Il y a un espace qui se crée sur le côté droit avec peut-être le centre à venir. Non, il va tenter la frappe. Le milieu de terrain qui a obtenu tout à l'heure le coup franc, Matteo Alinvi, et ce sera un corner à venir. Ça va très très vite en contre. Par contre, on essaye de se projeter pour les Canois, mais dès qu'il y a un peu d'espace, ils s'y engouffrent. Les Bourguignons, c'est le risque évidemment pour les hommes de Jean-Noël Cabezas qui rêvent un petit peu d'un parcours à la 2014, ou alors ils étaient en 7ème division, en N2 plutôt même, et ils avaient battu l'Estac, l'AS Saint-Etienne, Montpellier, pour tomber face à Guingamp en quart de finale. Il va falloir d'abord remonter ce petit but dans le handicap. 54ème, 1-0 pour Dijon.
Allez, le temps, le score sur les autres pelouses. Lille face à Auxerre, Timothée Mémon.
Toujours 3-1 en faveur de Lille, malgré les nombreuses occasions pour Bourak Yılmaz en ce début de seconde.
Et Quevilly-Rouen, Laval, Christophe Lécuyer.
La 55e minute de jeu ici à Diochon, 1-0 pour le Stade Lavallois, le but de Maggiotti en première période.
Taon, club des Vosges, mène 2-1 contre Beauvais. Beauvais réduit à 10 après 56 minutes de jeu. À 21h, on se trouvera le duel entre Rennes et Lorient. Le foot à l'étranger, Leeds Arsenal et Barça Elche, Aurélien Tersin.
Toujours pas de solution pour El Loco Marcelo Bielsa. Il observe son équipe se noyer contre Arsenal. 3-0 pour les Gunners après 54 minutes de jeu. Tous les buts inscrits en première période. Doublé de Martinelli et un but de Bukayo Saka. Quant au FC Barcelone, c'est un peu mou, mais ça se passe pas mal au niveau du tableau d'affichage. 2-0 contre Elche après 57 minutes de jeu. Deux buts de jeunes catalans, pur produit du centre de formation, Ferran Blanc de la tête à la 16e, et puis Gavi, un but à la Messi magnifique à la 19e.
Qu'est-ce qui soupire ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est moi, c'est Timothée du côté du stade Pierre-Mauroy, parce que il y a un nombre d'occasions absolument incalculables pour les Lillois, mais alors autant ils ont été efficaces en première, autant ils sont en panne d'efficacité en seconde. Bourak Yılmaz a eu trois grosses occasions jusqu'à présent. Là, il a décidé de centrer à l'entrée des 6 mètres pour Jonathan David qui ouvre son pied et qui rate le cadre. Ça ne lui ressemble pas, ça ne leur ressemble pas, mais à 58 minutes de jeu, on en reste à ce score de 3-1 en faveur de du LOSC face à la JA, alors que Mathias Autret va remplacer le buteur au Serrois, Rémi Dugimon.
Ok, on revient dans un instant pour la suite de ces matchs. 19h45 sur RMC, on est là avec Sébastien Piocel. C'est l'intégral foot spécial Coupe de France pour les 32e de finale.
Il va se présenter face à Raichopi. Attention à cette frappe croisée. Est-ce qu'il y a but ? Non ! Le tacle magnifique, le défenseur de cette équipe de Dijon qui revient, Zargo Touré me semble-t-il, qui prive Kielt d'un but égalisateur. Mais c'était parti très très vite sur le côté droit avec Paul Grandemange notamment. Toujours 1-0, coup de chaud, vrai coup de chaud sur la cage du gardien dijonnais Anthony Raichopi.
Heureusement qu'il revient, parce que c'est lui qui couvre au départ sur le long ballon. Il me semble que c'est lui à l'opposé qui n'est pas aligné avec ses défenseurs. Il s'est fait mal, je crois, ton chouchou.
Le joueur écossais.
Ouais, non, c'est Souleymane Djebbour qui reste au sol. Il a été touché au moment de mettre cette passe vers Stanislas.
Le sauvetage, il est miraculeux parce qu'il y a un rebond sublime au moment du tacle, et il touche le ballon des deux pieds, je crois. C'est incroyable.
Ah ouais, non, mais il est revenu en plus très vite, Zargo Touré. Ouais. Et c'est vrai, tu as raison, Seb, c'est lui qui est un petit peu en retard sur le départ de l'action, mais il vient sauver son camp.
Heureusement.
57e, 1-0 pour Dijon.
Bon, très bien. Et c'est là où il y a du suspense entre Cannes et Dijon, 1-0. Il y a du suspense également entre Quevilly-Rouen et Laval. Un peu moins entre Lille et Auxerre, mais attention, Lille loupe des occasions et Auxerre a su réduire l'écart. C'est pas terminé, à tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Benoît Boutron.
19h48 sur RMC. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. On est là, on est bien avec Sébastien Piocel. On suit les 32e de finale de la Coupe de France. Je vous l'avais promis, je vais le faire dans quelques instants. Vous rappelez tous les qualifiés de la journée. Juste après, un point sur le temps et le score sur toutes nos pelouses. Lille face à Auxerre, Timothée Mémon.
62 minutes de jeu, 3-1 pour Lille face à la GIA.
Et juste signaler que tous les titulaires habituels à Auxerre sont entrés, notamment Gaëtan Charbonnier. Ça peut faire une seconde période emballante entre ces deux équipes. Autre match en cours, Cannes-Dijon, Clément Brossard.
L'heure de jeu, 1-0 pour Dijon, le buteur Michael Le Billon. Attention à l'occasion cannoise, le face-à-face à nouveau. Oh, ça passe à ras du poteau. Oh, le stade Pierre de Coubertin qui s'était levé sur cette occasion cannoise. Le face-à-face, le petit plat du pied pour venir tromper Anthony Raichopi. Et finalement, ce ballon qui meurt au pied du poteau. Grosse occasion, très grosse occasion. Ah,
quel cannois alors ?
Alors il me semble que c'est, je n'ai pas le numéro devant moi, il me semble que c'est Julien André, le latéral gauche. Ouais, c'est Julien André qui est coupé d'un carton jaune tout à l'heure. C'est lui qui vient gâcher cette occasion. A commencé à les regretter hein, dans les rangs de l'ASC, parce que c'est quand même la cinquième occasion franche.
Là ça fait beaucoup. Forcément, quand t'as autant d'opportunités contre un club pro et que tu n'arrives pas à marquer. Attention à ne pas se faire punir derrière, mais bon, moi, ils n'ont pas abdiqué, ça veut dire qu'ils ont encore des occasions.
Tiens, avant d'aller voir Christophe Lécuyer, Robert Diochamp pour Quevilly-Rouen-Laval, match de dingue entre le Barça et Elche. Elche qui a inversé la tendance, Aurélien Tiersin.
Mais oui, à force de ne plus appuyer là où ça fait mal, le Barça encaisse un but de Tete Morente qui a fusillé Marc-André Ter Stegen, légèrement décalé sur la droite de la surface de réparation et l'égalisation. À l'instant, le centre au deuxième poteau, l'égalisation d'Elche de Pepe Mia, le ballon repoussé par Marc-André Ter Stegen sur son propre poteau et en 2 minutes, 2 partout, il y avait 2-0 pour le Barça en 2 minutes, 2 partout entre un FC Barcelone en crise et Elche. 63 minutes de jeu, le Barça qui n'a plus remporté un succès lors des 3 derniers matchs, et bien ça pourrait se poursuivre avec un 4e match. Xavi, l'entraîneur, qui essaie de remotiver un petit peu son équipe. Et en Angleterre, Arsenal se balade toujours 3-0 à Leeds, il reste une demi-heure de jeu.
Et comme je sens tout, je te dis, ce ne sera pas le score final entre le Barça et Elche.
Roland Boutron.
Exactement. Aurélien Tiersin, merci. On va voir du coup ce qui se passe entre Quevilly-Rouen et Laval. Pour l'instant, c'est la surprise, parce que c'est le club national qui est en train de sortir le club de Ligue 2, Christophe Lécuyer.
Ouais, et c'est assez logique hein, quand même, même si ça s'équilibre un petit peu. Les rentrées font du bien hein, les rentrées opérées par Bruno Hurles tout à l'heure à la mi-temps, avec notamment Joseph Zon, l'attaquant néerlandais, qui fait du mal à la défense lavalloise depuis qu'il est entré sur la pelouse du stade Robert Diochon. Il amène un petit peu de la folie là sur son côté, mais il n'empêche qu'à moins de 30 minutes maintenant de la fin du match, c'est toujours Laval qui tient bon, et c'est même Laval qui s'est procuré la plus belle occasion de cette seconde période, et qui tout à l'heure aurait bien pu inscrire un second but par Durban notamment. Fin de match indécise, donc il peut encore se passer beaucoup de choses, puisque Laval ne mène qu'un petit but à 0 à 27 minutes maintenant de la fin du match.
Tiens, égalisation de Beauvais à 10 contre 11 face à Taron. Beauvais, c'est National 2, Taron, c'est National 3. 2 partout entre les deux équipes. Il reste 25 minutes à jouer.
Il lâche rien, les Picards.
Ils sont comme ça. Effectivement, les fatales Picards. Retour du coup à Cannes, Cannes-Dijon, Clément Brossard.
Ouais, c'est la période des changements. Benoît a toujours un but à 0 pour les Dijonais après 63 minutes de jeu. Michael Le Bihan est sorti à l'instant pour la rentrée d'Aurélien Schaedler, qui a déjà inscrit 2 buts en Coupe de France, 7 en Ligue 2. C'est l'homme en forme dans les rangs bourguignons. On soulignera quand même qu'en sortant, Michael Le Bihan a dû non pas sortir comme d'habitude au proche du quatrième arbitre, mais de l'autre côté, proche des supporters cannois, et qu'il a reçu un petit bâton de drapeau. Donc voilà, on parle beaucoup en ce moment de débordement. Bon, il n'y avait rien de très dangereux et de très grave, mais tout de même un petit bâton de drapeau qui a été récupéré par l'arbitre de la rencontre. Ça peut toujours être inscrit dans un rapport, notamment. Donc voilà, beaucoup de changements après 63 minutes de jeu. 1-0 pour Dijon face au 3e de National 3, Cannes, qui ne démérite pas, qui continue de pousser dans cette rencontre.
Tiens, j'en profite, je vous rappelle tous les qualifiés provisoires pour les 16e de finale de la Coupe de France. 3 clubs de Ligue 1 se sont qualifiés, Strasbourg, Nantes et Clermont. Le seul club qui s'est fait sortir, le club de Ligue 1, c'est 3 battu par Nancy au tir au but, alors que Nancy a terminé à 8 contre 11. On sera avec le coach nancéen Benoît Pedretti à partir de 20h40. Pedretti qui doit être content parce qu'il est qualifié, mais dégoûté parce qu'il ira mardi effectivement disputer un match important en Ligue 2 sans 3 de ses titulaires. Donc on en parlera avec lui. Pour l'instant, il y a eu 4 qualifications de clubs de 2e division: Toulouse, Bastia, Nancy et Amiens. Un club de National, c'est Créteil. 3 clubs de National 2, Versailles, Vitré et Jura Sud. On va retourner du coup à Lille, Lille-Auxerre. Est-ce que la JA va mieux, Timothée Mémon?
3 buts à 1, la JA fait une bonne entame de seconde période à l'image du but inscrit. Ils ont été un petit peu plus pressants sur la cage d'Ivo Gribic. En tout cas, il y a eu pas mal de changements, tu l'as dit, hein, avec l'entrée de Gaëtan Charbonnier à la place de Benfredge, avec l'entrée d'Autrey à la place de Dugimon, celle de Bernard à la place de Georgen. Et puis on a également fait des changements côté Lillois. Iconé a remplacé Liadji, Benjamin André a remplacé Renato Sanchez. Ça, c'est du turnover logique, puisque cette équipe de Lille s'achemine vers une qualification vraisemblablement sans souffrir. Ce qui me surprend un petit peu plus, c'est la sortie de Bourak Yilmaz pour l'entrée de Yazici, pour la bonne et simple raison que Burak Yilmaz y était très frustré. Il a eu beaucoup d'occasions et peut-être que Jocelyn Gourvennec aurait pu attendre qu'il réussisse à en mettre une au fond, parce qu'il est sorti vraiment le visage bas, ouais, avec beaucoup de déception. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi maladroit, Burak Yilmaz. Et pour le dernier match de cette première moitié de saison à Pierre-Mauroy, il aurait peut-être voulu se débloquer un petit peu, parce que clairement
mercredi, Timothée, les Lillois.
J'ai noté ça tout à l'heure et voilà que ça va m'échapper. En tout cas, cette équipe de Lille va devoir rester.
Ils iront à Bordeaux.
Ils iront à Bordeaux, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Ils iront à Bordeaux, ils vont devoir rester mobilisés. Certes, ils auront une nouvelle pelouse comme cadeau de Noël pour la deuxième partie de saison. Attention à ce coup de coude de la part de Gaëtan Charbonnier, logiquement signalé sur André Onana. Bref, un petit peu surpris par, on va dire, le coaching sur le plan humain. Ouais. Sortir Burak Yilmaz à l'heure de jeu, c'est plutôt logique. Mais après l'avoir vu à ce point raté...
Non, après je comprends ce que dit Timothée. Après, Gourvennec doit être dans cette logique, c'est-à-dire que bon, le match n'est pas terminé, mais bon, on va dire que c'est quand même bien parti pour que, ouais, qu'il arrive à passer ce tour. Et bon, on sait que même si ils sont 11e en championnat, que c'est compliqué, forcément ils abdiquent pas et qu'il y a ce match à préparer. Et qu'aujourd'hui, même s'il a loupé quelques occasions, on l'a signalé, il a quand même été décisif. Donc il a besoin peut-être de récupérer un peu, et puis il a aussi besoin de donner du temps de jeu aussi à d'autres joueurs. On en parlait en antenne, il y a des joueurs qui ont complètement disparu, on parlait de Bradaric, et c'est pour ça que moi au départ j'étais un peu surpris du 11 de départ, même si je l'entends, il veut absolument gagner cette Coupe de France, mais t'as un groupe aussi à faire vivre, et je trouvais qu'il y avait 3-4 joueurs qu'on voyait plus du tout. Là je parlais de Bradaric et Yazici
en fait partie, c'est vrai qu'on très peu vu depuis le début de la saison. Là peut-être une possibilité avec Jonathan David qui va se réaxer pour glisser justement ce ballon à l'international turc Yazici, qui va venir s'enferrer sur la défense auxerroise. Youssouf Yazici beaucoup moins utilisé en cette saison lilloise, et c'est vrai que
beaucoup moins bon aussi.
C'est exact, beaucoup moins bon, notamment que la saison dernière, à peu près à même époque, là novembre-décembre, où il avait été particulièrement brillant, particulièrement utile. Et notamment ce triplé à San Siro, c'était effectivement peut-être le moment le plus fort de la saison dernière de Youssouf Yazici. Mais on le disait, c'est une bonne nouvelle d'avoir un Angel Gomez qui monte en puissance. Ce serait une bonne nouvelle de retrouver Youssouf Yazici pour la deuxième partie de saison côté lillois.
Effectivement, en tout cas c'est Lille qui mène toujours 3-1 contre la JOCR. Le temps, le score sur les autres pelouses les gars, Quevilly, Rouen contre Laval, Christophe Lécuyer.
Il reste 25 minutes à jouer et cette incroyable occasion là pour l'équipe de QRM avec Nazon qui a bénéficié d'un excellent centre côté gauche. Il est venu reprendre ce ballon et quelle incroyable parade d'Aubois, le gardien du Stade Lavallois, qui permet à son équipe de toujours mener 1-0 ici depuis ce but marqué en première période par Maggiotti.
Bon, je vous le dis, je veux une séance de tir au but. Donc soit toi Christophe, soit toi Clément Brossard pour ce Cannes Dijon.
Ah, Timothée, tu l'as éliminé de la course.
Oui, bah, je pense que Lille est quand même au-dessus d'Auxerre.
Mais comment on fait si c'est à Taon?
C'est ça, Taon. Ouais. On trouve.
J'ai un pote qui, autant il a fait le déplacement, qui joue à Beauvais, il est blessé. Ah. On peut essayer.
On n'en est pas là. On la commente à deux, soit on trouve quelqu'un pour la commenter, t'inquiète pas.
1-0 pour Dijon à Cannes après 68 minutes de jeu. Le buteur Mickaël Lebihan. Tout à l'heure, je vous parlais de ce jeté de bâton. Sachez que le match a été interrompu, 5 petites minutes, mais le temps que l'arbitre vienne voir le délégué.
On vient de le voir.
Ouais, il a été voir le délégué de la rencontre et puis il y a eu une annonce de speaker. Donc voilà, le dispositif s'est mis en place pour ce jet de bâton, pour appeler notamment aux supporters de ne pas jeter d'objets sur cette pelouse. 69e minute au stade Pierre de Coubertin. 1-0 pour Dijon et Cannes. C'est pas impossible, la séance de tir au but. Il y en a eu au dernier tour contre Rodez. Il y en a eu au tour d'avant également contre Le Puy. À chaque fois, Cannes s'était imposé à la fin.
Tu sais ce qu'on va faire, Sébastien Piocelle? Je vais attraper Aurélien Tiercin par le col, le faire descendre en studio et lui faire commenter cette séance de tir au but, si jamais il y a tir au but entre Taon et Beauvais.
Parfait.
Aurélien qui pour l'instant suit deux matchs étrangers, Aurélien. Et qui voit sa soirée s'envoler surtout.
Bah, merci Benoît, merci d'organiser.
Il a une réservation dans un resto, le pauvre. Ce sera.
Voilà, en plus, merci, il va pas au resto ce soir.
Non, je vais appeler ma copine, je vais lui dire qu'il y a Taon, Beauvais, elle va comprendre.
de partout entre le Barça et Elche. 19 minutes à jouer. Et en ce moment, le Barça, c'est Riron, c'est Valladolid, parce qu'ils sont en train de se faire marcher dessus par Elche. Égalisation en 2 minutes. Morente à la 62e, Mila à la 64e. Ça fait deux partout. Et derrière, sur un bon ballon de Gavi, le Barça aurait dû repasser devant. Mais Ferran Blanc s'est complètement manqué au deuxième poteau. Il avait le but de grand ouvert et il a réussi à tirer au-dessus. Donc, deux partout entre le Barça et Elche. 19 minutes à jouer. Pour Arsenal, c'est toujours une balade très tranquille dans le froid du Yorkshire contre le Leeds de Marcelo Bielsa. Il reste 21 minutes à jouer, donc 3-0 pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette.
19h59 sur RMC, un conseil pour vous tous. Si vous aimez la course à pied, venez découvrir le podcast RMC Running, Portrait de coureur, conseil d'entraînement ou encore bon plan d'ossard. Cette semaine, un invité, c'est Anthony Morel, journaliste tech de BFM TV. Les intérêts de courir connecté, c'est le thème de l'épisode. On sera avec Grégory Vermersch, le représentant français de l'application Strava. Célèbre application, et d'ailleurs on vous offre 4 abonnements de 3 mois, donc vous avez tout ça sur les réseaux sociaux d'RMC et vous écoutez l'épisode sur les plateformes de téléchargement et sur les applis RMC et RMC Sport. A tout de suite sur RMC pour la suite de ces matchs de Coupe de France et la suite de ces matchs étrangers.
RMC Intégral Foot Coupe de France.